Bon, c'est parti. Bonsoir. Vous êtes donc au Bistrot des Ethnologues qui va bientôt démarrer.
Donc, le Bistrot des Ethnologues accueille Dorothée Ducy ce soir pour son livre Le berceau des dominations qui traite de l'inceste. Dorothée Ducy est ethnologue, chercheuse au CNRS au centre Norbert Elias à Marseille. Et donc, elle travaille sur l'inceste, sur le silence, le non-dit, tels qu'ils s'inscrivent dans des mécanismes sociaux. Elle s'intéresse à l'inceste, mais à la pratique de l'inceste, ce qui est une nuance importante, comme vous allez le voir. Avant de travailler sur ce sujet-là, Dorothée était chercheuse au laboratoire d'anthropologie urbaine à Ivry-sur-Seine, et elle avait pour objet d'étude la Nouvelle-Calédonie et des mécanismes politiques articulés notamment à des questions territoriales et à des habitats précaires, on va dire. Voilà, donc pour le parcours de Dorothée, qui va présenter son ouvrage pendant 45 minutes, et puis ensuite nous en discuterons avec des questions. Donc cette dernière séance du Bistrot des Ethnologues va donner lieu ensuite à une nouvelle programmation pour la saison prochaine. Si vous voulez avoir des informations sur cette programmation, eh bien laissez vos mails à la sortie pour qu'on puisse vous délivrer ces informations quand elles seront fixées, établies. À la sortie, vous trouverez aussi l'ouvrage de Dorothée Ducy, qu'elle pourra éventuellement dédicacer, si vous le souhaitez. Il est présenté par la librairie Livret. Et puis, nous remercions donc la DRAC, la ville de Montpellier, le Conseil général de l'Hérault, qui soutiennent donc le Bistrot des Ethnologues. Et nous remercions également la laiterie pour son accueil. Et je vais passer la parole à Dorothée.
Merci. Et je me lève parce que je suis sur scène. Voilà. J'aime bien parler debout. Merci pour l'invitation. Merci à l'équipe du Bistrot des Ethnologues. Je suis très contente d'être là, à Montpellier, pour parler de mon livre. Et de mon travail, en fait, sur l'inceste. Mais principalement de ce livre qui s'appelle Le berceau des dominations, comme l'a dit Agnès. Donc, l'inceste, comme vous le savez ou pas d'ailleurs, ça fait, vous aussi vous entendez le « Ah voilà, c'est ça. C'est pour pas que je sois debout. Là, là, là. Ah, ça va, là, ça fait plus le « U ». Donc l'inceste, c'est un gros dossier de l'anthropologie sociale, qui, jusqu'à présent, en fait, jusqu'à ce que je m'y intéresse, était consacré à étudier dans toutes les sociétés au monde les systèmes de parenté, en fait. En fait, on ne travaillait pas en anthropologie sociale sur l'inceste, mais sur l'interdit de l'inceste. C'est-à-dire sur, dans une société donnée ou pour une société donnée, on étudiait les personnes avec qui je ne pouvais pas, ne devais pas me marier. Et du coup, ça permettait en contrepoint de travailler sur l'exogamie et de montrer pour une société donnée dans quel groupe on devait aller chercher des femmes pour les marier aux hommes. Bon. Donc, pour à peu près toutes les sociétés humaines, on sait, grâce aux anthropologues, aux ethnologues qui ont travaillé à peu près partout, comment fonctionnent les systèmes de parenté et comment fonctionne l'interdit de l'inceste, avec qui on ne doit pas se marier à peu près partout au monde. Bon. Quand j'ai repris ce dossier, donc après avoir arrêté mon travail en Nouvelle-Calédonie, enfin j'ai opéré une mobilité thématique, on appelle ça comme ça, j'ai repris le dossier en fait en me disant on procède sur ce dossier de l'interdit de l'inceste d'une façon qu'on interdirait aux étudiants de première année de procéder en fait. C'est-à-dire, au lieu de prendre l'inceste par la dimension empirique, ce qu'on est censé faire, en principe, quand on est ethnologue, on prend on construit les objets ou les questions à partir des usages ou des pratiques qu'ont les gens dans telle ou telle société. Et là, on le prenait, ce qui est plutôt un truc de sociologue, par la norme, en fait. Et donc, moi, j'ai réouvert ce dossier de l'inceste par la pratique, par la dimension empirique, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que l'inceste? quand ça arrive en vrai dans les familles et du coup de nos sociétés, parce que c'était autant commencer par balayer devant chez soi, enfin on travaillait ici, voilà. Et donc l'inceste, quand ça arrive en vrai, en fait, pour tout le monde à part pour les ethnologues, c'est-à-dire tous les autres professionnels, les journalistes, les psychologues, les avocats, pour le sens commun, c'est un abus sexuel commis sur un enfant de la famille, en fait. C'est jamais un mariage ou une question de mariage, il n'y a jamais question de ça. L'inceste, ça désigne clairement des abus sexuels commis sur un enfant dans la famille ou la famille élargie. Voilà. Tous les gens qui disent avoir vécu l'inceste, adultes, ils disent pas qu'on a essayé de les forcer ou qu'ils ont épousé un cousin germain ou une sœur. Ils disent, quand j'étais petit, mon père ou mon tonton ou mon frère, il m'a fait des trucs. Ils disent ça, c'est à peu près aussi, c'est clair que ça. Voilà. Donc, il y a une espèce de définition consensuelle pour l'ensemble de la société, hormis le tout petit monde des anthropologues qui définissaient, en fait, non pas l'inceste, mais l'interdit de l'inceste autrement, voilà. Donc je me suis dit, bon, alors comment on fait ? Très ok, allons-y, comment on fait pour travailler là-dessus ? Alors, il a fallu trouver un terrain. Donc j'ai bricolé, en fait, on peut dire ça comme ça, une méthode. J'ai essayé de trouver un terrain. Alors c'est difficile parce que on ne croise pas des gens au bistrot, des ethnologues ou au bistrot du quartier qui disent « Ah, ben moi, hier, j'ai violé ma gamine » ou « Oh, ben moi, j'ai eu un truc sexuel avec un enfant de ma famille. » Voilà. Donc, par exemple, dans la vie courante, on ne croise jamais d'incesteurs. On croise des gens qui, quand on croise le parcours de personnes qui disent qu'elles ont vécu un inceste, on croise des incestés. On ne croise pas des gens qui commettent un inceste. Donc, moi, je voulais rencontrer, pour essayer de décrire au mieux des situations familiales ou comprendre comment ça marche, il fallait que je rencontre plusieurs personnes qui sont impliquées dans une situation incestueuse. Donc, j'ai commencé par le plus simple. J'ai enquêté dans des associations d'entraide aux victimes d'inceste. C'est des associations qui regroupent des adultes qui ont vécu de l'inceste quand ils étaient petits et qui l'ont pas bien vécu, en fait, et qui essayent d'aller mieux. C'est ça, en fait. Donc, eux, ils disent qu'ils sont victimes d'inceste. Déjà, c'est... J'ai travaillé longuement, en fait, plusieurs années. J'ai cofondé à Paris une association. Enfin, j'ai travaillé comme bénévole. J'ai fait des formations en thérapie de groupe pour pouvoir enquêter, observer, comprendre. J'ai fait des entretiens, évidemment, avec beaucoup de gens dans ces associations. J'ai aussi suivi, parce que l'autre endroit où on entend parler de l'inceste, c'est quand il y a des affaires qui sont portées en justice. Ben vous, comme vous le savez, parce qu'elles sont médiatisées parfois ou pas, mais voilà. Donc j'ai suivi des procès en cour d'assises, j'ai suivi plusieurs procès et j'ai rencontré soit des gens que je connaissais déjà et qui étaient victimes ou partie civile ou témoins. Voilà. J'ai suivi des procès. Et quand même, le grand absent à ce moment-là de mes enquêtes, c'était les incesteurs, les gens qui ont commis l'inceste, des gestes sexuels sur des enfants de leur famille. Bon, alors, j'ai eu du mal. Enfin, je me demandais comment les rencontrer. Puis je suis allée en prison, en fait. Et en prison, ben, j'ai mené aussi une longue enquête auprès de 25 détenus d'une prison lambda de France. Et donc des entretiens répétés avec des hommes, exclusivement des hommes. Alors, non pas qu'il y ait que des hommes qui incestent, mais il n'y a que des hommes qui sont condamnés pour inceste, en fait. Il y a, à l'heure actuelle en France, aucun procès dont l'accusé principal, enfin pour inceste, dont l'accusé, la personne mise en accusation est une femme. Il y a des complices des épouses ou des... Voilà, mais il n'y a pas de femmes détenues pour... Et puis il n'y en avait pas dans la prison où j'étais au moment où je travaillais. Bon, voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas. Voilà. Donc J'ai été écoutée, on a fait beaucoup d'entretiens et certains de ces hommes ont accepté que je rencontre des membres de leur famille. Et du coup, j'ai pu comme ça enquêter dans 2, 3, 4 familles en rencontrant 3, 4, 5, 10 personnes de la parenté. Voilà. Et donc, qui racontaient, enfin, pour toujours, pour essayer qu'on me décrive, de comprendre qu'est-ce que c'est quand ça arrive. Voilà. Et j'ai évidemment fait une veille médiatique de toutes les histoires qui sont médiatisées. Il y en a beaucoup, il y en a tout le temps aussi. J'ai suivi cette veille médiatique et puis j'ai lu. Enfin voilà, j'ai fait mon travail d'ethnologue. Et essayer du coup de construire ça comme un objet et d'objectiver tout ce que je pouvais objectiver là-dedans et d'écrire cette pratique. Alors... non pas avec un, évidemment pas, j'ai envie de dire, avec un regard moralisateur sur le thème, l'incesteur a mal fait ou a dérapé, enfin, j'étais pas dans cette place-là, celui qui dit, oh, l'incesteur est quelqu'un qui, un pervers, ou quelqu'un qui dérape, ou quelqu'un qui est un délinquant, c'est le discours du juriste ou du médecin. Bon. L'ethnologue, il recueille, essaye de décrire ce que vivent les gens avec les mots qu'ils ont pour dire ce qu'ils vivent. Donc, j'étais pas du tout dans une posture, évidemment, autre, en fait, que celle de la description. Voilà. Et donc, tout ça mis bout à bout, alors qu'est-ce qu'on peut objectiver? Qu'est-ce qu'on sait, en fait, de l'inceste? Alors, on sait, parce qu'il y a une littérature, alors pas du tout en sciences sociales, pas du tout en anthropologie, mais une immense littérature dans le champ de la santé mentale et du travail social. Sur l'inceste. Donc, dont on peut apprendre beaucoup de choses, et notamment, il y a énormément d'enquêtes sur la prévalence de l'inceste dans les sociétés occidentales. La prévalence, ça veut dire quel volume de la population, enfin, combien de gens ça concerne. Et donc, on sait, il y a énormément d'enquêtes depuis 60 ans qui sont menées, principalement en Amérique du Nord, mais aussi en Europe, en France. Et maintenant en Palestine, à Taïwan, donc il y en a pour la Réunion, en Nouvelle-Calédonie, donc quand même dans des sociétés différentes, des systèmes politiques différents, des histoires et des contextes sociopolitiques différents. Mais alors le premier truc quand même étonnant, c'est que un protocole d'enquête égal, donc pour pouvoir comparer évidemment, à type de geste. Équivalent, donc toutes choses égales par ailleurs, on arrive toujours à la même fourchette, quelle que soit la société, on sait que 5 à 10% des enfants vivent de l'inceste, vivent des abus sexuels dans leur famille ou leur famille élargie avant 16 ans. Et quand je dis vivre des abus sexuels, et quand je dis à protocole d'enquête égale, c'est tout geste sexuel avec pénétration. 5 à 10% des enfants, plus de petits garçons, plus de petites filles que de petits garçons, vivent des abus sexuels avec pénétration dans leur enfance, avant l'âge de 16 ans. Ce qu'on sait, ce qui est tout à fait bien documenté, c'est que l'âge moyen au premier viol, puisque en tout cas, dans la loi française, si on parle de pénétration, c'est la définition du viol légal. C'est un acte sexuel avec pénétration, commis sous la contrainte, la menace ou la surprise. Mais pour les personnes mineures de moins de 15 ans, il n'y a pas la notion de contrainte. Enfin, le fait qu'il soit mineur fait que de toute façon, c'est un viol. Ça ne peut pas être une relation consentie. Donc, âge moyen au premier viol, 9 ans. Et la période des abus sexuels dure en moyenne 5 ans. Voilà. Donc, ce qui fait que dans une classe de CE2 à 9 ans, pour une classe en France en moyenne de 30 élèves, on peut imaginer, sans se tromper vraiment, que sur 30 gamins, il y en a 3 qui vivent des abus sexuels à la maison. Donc, alors, première info, premier élément, du coup, c'est que ce truc qui est censé être hyper interdit, l'inceste, la sexualité avec les enfants, on voit donc, on sait que c'est extrêmement bien documenté, que c'est en fait banal. 5 à 10%, ça en fait une pratique relativement banale. Donc, la question suivante, c'est comment ça peut être banal. Enfin, comment ça marche, quoi. Comment ça marche, comment des enfants, sans que la plupart du temps on s'en aperçoive, ni eux, ni leur famille, ni personne, parce que quand même on s'en aperçoit assez peu, peuvent être violés comme ça, 5 ans en moyenne. Ça, c'est des moyennes chez eux. Bon, alors. Du coup, cette description de ce que c'est que l'inceste, j'en ai fait, ça me paraissait quand même un objet assez important et en fait à décrire et assez, finalement je me suis rendu compte qu'on n'en savait pas grand chose de ce fonctionnement. Et du coup j'ai eu l'idée d'essayer de le décrire, mais vraiment finement, en partant d'abord du système mis en place par l'incesteur. C'est l'objet de mon premier livre, et voilà, et petit à petit, j'ai eu dans le livre, enfin, ce projet de livre que j'avais au départ, en fait, il est devenu trop gros pour en faire un seul livre, et donc ça constitue le premier volume d'une trilogie qui est en cours d'écriture. Dans ce premier volume, qui s'appuie principalement sur mon enquête menée auprès des incesteurs en prison, j'essaye de décrire le système familial que ces gens mettent en place pour que, à l'insu de tout le monde, ou presque en tout cas, ils puissent avoir des rapports sexuels avec un ou plusieurs enfants de leur famille pendant des années, comme ça, sans qu'il se passe rien, en fait. Voilà. Et donc, deuxième point qui est important, du coup, c'est voilà. Alors, comment ça marche? C'est quoi la grammaire de l'incesteur, ou donc comment ça fonctionne? Donc, ça fonctionne principalement. Enfin, je parlerai du système silence qui est mis en place par l'incesteur après, mais dans un premier temps, ce qui est intéressant de montrer, c'est tout le discours de l'incesteur qui consiste à désaggraver la pratique de l'inceste. En fait, les incesteurs ne sont pas des violeurs et ne sont pas sont des bons pères de famille. Voilà. Tout mon travail a consisté à essayer de décrire qu'est-ce que c'est que cette banalité, comment elle fonctionne. Voilà. Alors ça fonctionne comme ça. L'incesteur n'est pas un violeur. L'incesteur et donc principalement un homme, j'ai dit une femme parfois, mais quand même en majorité statistique, hein, c'est pas juste mon enquête, c'est en écrasante majorité statistique, est un homme qui commet des viols d'aubaine, c'est-à-dire c'est un homme qui a une libido plutôt bien portante et qui s'arrange avec lui-même pour s'autoriser, ce qui, du coup, ne devrait pas s'autoriser, mais une sexualité là où c'est possible, quand c'est possible, et du coup, c'est assez simple et assez facile de faire des trucs sexuels avec un enfant, parce qu'un enfant, ça, surtout quand c'est son enfant, ça obéit, ça ne dit pas non, ça ne conteste pas, et si on lui dit de se taire et que c'est comme ça, et ben, il se tait et c'est comme ça. Et du coup, c'est voilà. Et donc, tout mon travail a consisté à décrire assez finement quel vocabulaire ces gens ils ont pour parler de l'inceste, des gestes sexuels, de la relation, en fait, comment ils décrivaient ce moment des gestes sexuels. Donc, et du coup, ce qu'il en sort, c'est... En fait, c'est le décalage entre le peu d'importance que l'inceste a pour les incesteurs qui est complètement décalée par rapport à la place ensuite submergente que ça prend pour les incestés tout au long de leur vie. C'est, je trouve que c'était ça, moi, qui m'a frappée dans mon travail. C'est que le moment des abus sexuels, les gestes sexuels durent, enfin la pratique sexuelle, c'est 2 minutes, quoi, c'est 5 minutes dans une journée. Et du coup, pour l'incesteur, c'est aussitôt fait, voilà, détendu, c'est oublié en fait. Et donc c'est complètement en décalage avec ce que vit l'incesté, qui n'est donc pas du tout en rapport. L'incesteur, pour désigner, pour nommer les gestes sexuels, ou pour nommer ce que moi de ma place j'appelle l'inceste, ne dit jamais ni les mots de viol, ni les mots d'agression, ni les mots d'abus. En fait, personne, mais ni l'incesteur, ni personne dans la société, en fait, on a assez rarement un regard stigmatisant ou déqualifiant de soi-même, en fait. Donc, l'incesteur dit oui, pour parler des gestes sexuels, il dit, il dit les bêtises, ah oui, les bêtises que j'ai faites, ou alors ça. Ou alors, il parle, des fois, évidemment, il dit faire l'amour, il dit quand on a fait l'amour avec. Donc, il y a tout un vocabulaire, en fait, qui permet de désaggraver en permanence, à la fois le fait que ce qu'il a imposé à l'enfant, ben, c'était un viol, qui est sous le coup de la loi, et tout un récit qui consiste aussi à vieillir l'enfant, en général des petites filles, mais des petits garçons aussi, c'est-à-dire à reconstruire, à réinventer une histoire où les belles filles, ou les nièces, ou les cousines, enfin, ou les petites filles qui étaient violées n'étaient pas des petites filles, mais des jeunes femmes. Donc, toute une reconstruction comme ça de la réalité qui permet, au bout du compte, à ces hommes d'être pas pour tous, puisque il n'y a pas, évidemment, un profil, enfin, ça, c'est, ça n'existe pas, ou une personnalité d'incesteur, mais des sommes de parcours complexes, de vie complexes. Mais majoritairement, des gens qui arrivent en fait à vivre très bien avec eux-mêmes et qui sont confrontés au fait que c'est préjudiciable pour l'enfant et en plus une infraction grave au moment où l'enfant qui est devenu adulte, dans la plupart des cas, porte plainte. Et donc où ils sont amenés à déposer, enfin, soit à la police et puis après devant les magistrats, parce que... Un truc que j'ai oublié de dire, c'est que les gens que j'ai vus en prison ne sont pas vraiment représentatifs des autres incesteurs, parce qu'eux, ils sont en prison. Et la plupart des incesteurs ne sont pas en prison, sont ailleurs, en tout cas pas en prison. Voilà. Et du coup, ces gens que j'ai vus en prison ont la particularité d'avoir, à un moment donné, reconnu qu'ils avaient commis des viols sur un ou plusieurs, hein, des fois, ou des fois des tas, même d'enfants de leur famille. Et ça, c'est une particularité importante, parce que assez peu de gens, parce que j'en ai rencontré après, enfin, via les victimes d'autres personnes, dont certaines victimes m'avaient dit « j'ai été incestée par mon cousin, mon oncle » et tout ça, et il se trouve que j'ai pu rencontrer ses oncles et ses cousins, et qui, à aucun moment, ont... ce regard sur eux-mêmes, ne sont pas des violeurs, en fait, sont des bons vivants, c'est un peu ça, en fait, sont des bons vivants qui ont une sexualité active et riche, en fait, ce serait plutôt comme ça, qui, voilà. Et du coup, qui, si ça se présente, ont aussi comme partenaires sexuels, puisque du coup, pour eux, c'est des partenaires sexuels, une nièce ou une fille ou une belle-fille, bon. Une fois que j'ai décrit cette éthique de l'incesteur qui est donc un bon père de famille, qui travaille pour élever ses enfants et pour les nourrir et qui paye ses impôts et qui est un bon contribuable et un bon époux, certes avec une sexualité active et qui s'octroie quelques libertés avec la loi, mais qui ne s'octroie pas quelques libertés avec... est-ce que tout le monde déclare bien ses impôts et déclare bien... voilà, est-ce que tout le monde se garde toujours au bon endroit? Bon. En fait, on a, c'est ce que j'essaye de montrer dans ce livre en montrant comment fonctionne cette banalité de l'inceste. Et la banalité, en fait, des arrangements qu'on fait avec soi-même, c'est que les incesteurs ne sont pas différents des non-incesteurs. C'est-à-dire que tout le monde, à un moment donné, s'arrange avec soi-même pour commettre des petites infractions. Et dans leur cas, à eux, c'est pas plus que ça, en fait. C'est ça le grand enseignement, je trouve, de cette enquête. C'est que dans le cas des incesteurs, c'est pas plus que de se garer sur un stationnement réservé aux personnes handicapées, enfin, avec sa voiture pour aller faire les courses, quoi. Alors, une fois qu'on a dit ça, et c'est quand même, c'est contrariant de voir le monde comme ça. Et bon, alors, ce qu'il faut dire aussi, second grand enseignement de cette enquête, c'est que, dit comme ça, ces incesteurs, ces hommes peuvent paraître peu fréquentables, enfin un discours qui est qu'on a du mal à entendre ou à accepter. Le deuxième grand enseignement de cette enquête, c'est que l'inceste survient dans un contexte où, systématiquement, il est déjà là. C'est-à-dire que tous les incesteurs que j'ai rencontrés avaient grandi dans des familles où il y avait déjà de l'inceste. Et toutes les victimes d'inceste que j'ai rencontrées, des centaines, hein, j'en ai rencontré des centaines, ont grandi dans des familles où il y avait déjà de l'inceste. Et ce qui est très intéressant, c'est pas que ça se reconduit, parce que ça se reconduit pas de père en fille, c'est pas un père qui inceste sa fille, ensuite une fille qui inceste ses enfants, c'est pas comme ça que ça marche. C'est un enfant, garçon ou fille, qui grandit dans une famille, par exemple, avec... J'ai dans ce livre, mais ça va pas... J'ai pas de foot là de PowerPoint, mais j'ai fait ce que j'appelle des photos de famille. Qui sont, en fait, des schémas de parenté, mais on voit pas, mais si vous avez le livre, s'il circule, vous pourrez voir. Où... Les flèches, je ne sais pas si vous voyez les flèches, là. Toutes les flèches, ça représente des viols, en fait, et des relations incestueuses dans la famille. Et donc, tous les gens que j'ai rencontrés ont grandi dans des familles, par exemple, où il y avait déjà un oncle qui incestait des nièces ou des neveux. Et ce qui est fascinant, c'est que ce qu'on retrouve, c'est qu'à la génération d'après, c'est aussi un oncle, des nièces et des neveux. Et en fait, cette enquête a permis de montrer que un peu comme dans des familles où il y a des où on se transmet la pratique du foot. La pratique du foot, ça marche dans les familles parce que on a vu son oncle ou son grand frère jouer au foot et qu'on a trouvé ça chouette et que du coup on a envie de faire pareil. Bon, alors pour le foot, on voit bien comment ça marche, comment il peut y avoir des familles à foot. Voilà. Et ben, mais en fait, pour l'inceste, c'est finalement c'est un peu le même principe. D'apprentissage ou d'imprégnation par mimétisme, en fait. Et donc, que ce soit incesteur ou incesté, puisque en disant l'inceste survient dans un contexte où il est déjà là, ça veut dire que à une génération donnée, il y a des incesteurs et des incestés. Petits, grands, mais qui fabriqueront eux-mêmes des incesteurs et des incestés. Et ça fonctionne par ce qui fait que l'inceste se reproduit avec la même prévalence, c'est quand même un truc fascinant, ça. La même fourchette statistique, la même prévalence, quel que soit le type de société. C'est que dans les familles où ça se pratique, depuis l'enfance, les petits à venir dans la famille grandissent dans des relations de domination comme pouvoir, comme dans toutes les familles, il y a des relations de pouvoir, mais qui sont des relations érotisées. Et donc, ils grandissent avec auprès de parents, ou donc les tantes, qui entre eux gardent la trace des relations d'enfance érotisées. Par exemple, un fils je pense, dont le père a été incesté par un oncle ou dont le père a été incesté par un de ses frères, eh ben, ce père, même s'il est lui-même adulte, il continue d'être... comment dire, sa relation avec son frère incesteur continue d'organiser la relation fraternelle. Et donc, il continue soit d'en avoir la trouille, soit d'être fasciné, soit les deux à la fois, soit d'être en recul, voilà. Et donc, l'incesteur continue d'exercer cette espèce de pouvoir ou d'emprise ou de relation dans laquelle tous les autres autour sont pris aussi. Et donc, tous les petits de la famille sont élevés et baignent là-dedans. Et de la même façon qu'on apprend une langue ou deux langues, ou pour les enfants qui sont trilingues parce qu'on l'entend et on la parle, eh ben, les enfants sont habitués dès petits à vivre dans le système silence, qui est donc l'autre des points importants à thématiser là, pour cette enquête, qui est une espèce d'injonction familiale à l'échelle de l'individu, de la famille, mais aussi, je ne sais pas si j'en parlerai là parce que je ne sais pas si j'aurais envie ou si j'en aurais marre de parler, mais si vous me posez la question, je pourrais le dire. Injonction au silence à l'échelle de la société aussi. Donc, injonction au silence sur les pratiques sexuelles. Et l'incesteur, mais du coup, on comprend que l'incesteur a appris ça lui-même quand il était petit des adultes de sa famille, est élevé et fera vivre ça ensuite à sa famille, aux enfants de sa famille. En enjoignant tout le monde à se taire et à être aveugle sur les gestes sexuels. Et c'est comme ça que, dans la famille, de génération en génération, se reconduisent des abus sexuels sur un ou plusieurs enfants de la famille. Alors, on ne peut pas dire sans que les autres le sachent, en fait. Les autres aussi, dans ces familles, sont élevés depuis tout petit à se taire et à ne pas voir les abus sexuels. Et les formes de mise au silence sont assez variées, vont de paroles de l'incesteur à l'incesté directement sur le thème « Tais-toi, sinon ta mère va être très malheureuse si elle l'apprend » ou « Tais-toi, sinon je te tape dessus » ou « Tais-toi, sinon un malheur va arriver » ou « C'est notre secret », enfin bon. Ou alors de formes beaucoup moins explicites, des fois en fait de formes non verbales, de modalités non verbales d'injonction au silence, mais qui font que au final tout le monde se tait. Et les enfants incestés, bien que grandissant dans une famille où il y a déjà de l'inceste, où tous les portent à se taire, ont un truc de survie et de protection d'eux-mêmes quand même qui se met en route et essaye. Tous les gens que j'ai vus j'ai vu plusieurs, enfin une centaine d'incestés, et les incesteurs aussi quand eux-mêmes ont été incestés, ce qui arrive, tout le monde a essayé de le dire. Tout le monde a essayé de dire à un grand frère, une grande sœur dans la famille, mon oncle ou mon père ou papy me fait des trucs ou hein. Et le reste de la famille les renvoie toujours au silence. Et le reste de la famille, qui est élevé aussi dans ce système silence, n'entre jamais dans la salle de bain si les abus sexuels ont lieu dans la salle de bain, par exemple. Tout le monde évite, en fait. Il y a des territoires. L'inceste, c'est... Décrire l'inceste, c'est... Ça, c'est l'autre enseignement de cette enquête, c'est que l'inceste ne se réduit pas au strict moment des abus sexuels ou à la période des abus sexuels. En fait, l'inceste, il englobe la gestion pour chacun dans la maison, la gestion des territoires, la gestion des horaires, en fait, pour ne jamais voir, ne jamais entendre, ne pouvoir maintenir le silence, en fait, protéger le silence. Et se reconduit, du coup, à travers les âges, et voilà. Et ce qui est le problème dans l'inceste, en fait, c'est pas la pratique des abus sexuels. Elle est pas problématique pour le fonctionnement de la famille, parce que la famille fonctionne très bien quand quelqu'un ou plusieurs d'ailleurs personnes de la famille violent à répétition pendant des années des enfants de la famille. La famille explose quand le système silence est rompu. Ce qui fait exploser la famille, c'est la révélation de l'inceste. C'est un désordre familial, c'est un désordre à l'ordre social qui enjoint de se taire sur l'inceste. Et là, effectivement, la famille, bon, après se recompose. L'autre point que je voulais aborder, c'est autour de l'inceste, que certes on peut définir comme viol, mais en fait, ce qui fait que ça fonctionne aussi, et que ça se reconduit, et que ça dure longtemps, c'est que on comprend bien, en fait, ça, c'est qu'on a une représentation de la définition, on a une définition du viol, en fait, qui correspond pas à, enfin, une représentation du viol qui correspond pas à ce qui est vraiment un viol. Quand on pense au mot viol, dans le sens commun, en général, on a l'image qui vient, c'est un inconnu qui se planque et qui, quand on est adulte et qu'on, je sais pas, on sort le soir et qu'on est une jeune femme, on se fait attaquer, on est violé, voilà, par un inconnu. Et c'est une agression et voilà. Dans 80, ça aussi c'est statistique en fait, dans plus de 85% des situations de viol, le violeur est un proche de la personne qui est violée. Alors du coup, ça oblige à en avoir une autre représentation. C'est donc quelqu'un que la personne violée connaît, et c'est pas la représentation qu'on peut en avoir d'un inconnu qui fait peur et qui vous agresse. C'est un truc plus insidieux, mais au bout duquel une des deux personnes dit « on m'a violée voilà, ». Bon. Et là, dans le cas des abus sexuels commis avec des enfants de la famille, en fait, on comprend bien aussi que pour que ça puisse durer, pas une fois, deux fois, enfin des fois ça arrive une fois, deux fois, puis plus jamais, mais en moyenne, ça arrive 5 ans. Et donc, pour vivre des trucs sexuels pendant 5 ans, on peut pas, enfin, la représentation qu'on a du viol correspond pas, en fait. Donc, c'est un truc auquel les enfants s'habituent. C'est une pratique de leur vie quotidienne qu'ils voudraient arrêter, qu'ils détestent et qui les détruit, enfin, en tout cas, qui les construit d'une façon qui les ravage, mais qui vivent. Et c'est aussi, nous sommes des êtres de chair, enfin, biologiques, et cette stimulation des organes génitaux, même chez les tout petits enfants, crée de l'excitation et crée du plaisir. Et du coup, la plupart des gens qui arrivent à en parler, parce que c'est un truc qui est hyper difficile à dire pour les personnes incestées, c'est leur collaboration, en fait, la coopération nécessaire pour pas mourir, en fait, parce qu'on peut pas retourner au comme ça, dans une scène de violence, soit on s'échappe de chez soi, soit on meurt, soit on y va et du coup, il faut un peu de coopération et de complicité. Et il y a aussi l'espèce d'addiction au plaisir sexuel, qui est un truc assez, enfin, qui est même épouvantable à vivre pour les incestés, parce que c'est quelque chose contre quoi ils veulent lutter et qu'ils détestent, mais c'est comme ça. Et du coup, ça fait donc une situation inextricable qui les rend immédiatement coupables, en fait, d'avoir envie de fuir, mais de ne pas fuir. Voilà. Qui fait que cette situation érotisée, elle fait que ça peut perdurer dans le temps et que ça se maintient. Et qui fait aussi que, du coup, ça se reconduit. Et donc j'ai parlé un petit peu du système silence, de la révélation qui détruit la famille. Donc je crois que je vais pour finir cette présentation, et puis après j'ai plus d'idée de ce que je pourrais raconter qui est dans mon livre, mais s'il y en a qui l'ont lu ou peut-être voilà, reposant des questions, ça va. Et bon appétit pour ceux qui... Et c'est autour de voilà de ce donc ce qu'il faut retenir, c'est la puissance ahurissante du système silence et le moment donc charnière de la révélation par quelqu'un, en général l'incesté, une personne incestée de la famille, donc la révélation de l'inceste qui crée une sorte de révolution de l'ordre familial. Et qui, une révolution, c'est pas une métaphore ou c'est pas un faible mot, en fait. C'est-à-dire que c'est un moment qui oblige tous les parents, tous les gens de la famille, à se repositionner par rapport à cette révélation. C'est-à-dire qu'une fois que ça a émergé, que c'est été révélé, Tous les parents proches sont tenus de se repositionner comme soutenant la personne incestée ou soutenant l'incesteur. Et du coup, soutenir la personne incestée, ça veut dire aussi, ça va chercher les gens aussi au fond d'eux-mêmes, et c'est compliqué parce que ça oblige les gens à revenir sur leur propre aveuglement, ce qui est très difficile, enfin, ce qui nécessite pour les choses profondes, enfin, pour tout le monde, soit un travail thérapeutique, soit, enfin, c'est hyper difficile de revenir sur des aveuglements qui sont ancrés. Et de revenir aussi ou de thématiser la non-protection de l'enfant. Ce qui veut dire aussi, puisque avoir des rapports sexuels avec un enfant de la famille, donc ça s'appelle aussi pédophilie, on ne peut pas tellement faire plus stigmatisant dans notre société. Donc ça veut dire reconnaître l'inceste et donc valider la parole de celui qui révèle l'inceste, ça veut dire reconnaître qu'on est parent ou marié, quand il s'agit de l'épouse de l'incesteur, à un monstre, en fait. Et du coup, on est un peu éclaboussé, imprégné soi-même. Et donc, pour toutes ces raisons, mais principalement des raisons qui... Enfin, tout ce qui oblige chacun à s'interroger sur sa propre coopération au système silence... Dans la majorité des cas, après une révélation d'inceste, c'est celui qui a révélé l'inceste, donc l'incesté, qui est rejeté de la famille, et pas du tout l'incesteur. Et la famille se recompose autour de l'incesteur, en général, et voilà, et ça recommence, exactement, voilà, et ça recommence, et même si une branche de la famille... Alors ça, c'était intéressant aussi quand on va assister à des procès. Donc ça, c'est une autre échelle, mais... C'est l'objet. Enfin, j'en parle un peu là, mais je le thématiserai davantage dans mon livre 3. Mais j'en parle un peu là. C'est comment le système judiciaire et la justice fonctionnent aussi. Parce que quand je dis 5 à 10% des personnes qui sont incestées, reprenons là le début du truc, si on ajoute les incesteurs, ça fait plus, hein. Et si on ajoute les frères et sœurs, les familles, enfin, ça fait en fait que plus ou moins tout le monde est élevé dans l'ordre social qui interdit l'inceste, en théorie, mais qui l'admet en pratique. Alors avec... enfin, bon, qui l'admet. Et donc, tout le monde est élevé dans l'ordre social qui enjoint de se taire sur l'inceste. Et du coup, les magistrats et tous les gens qui font fonctionner le système judiciaire, les avocats, la police et tout ça, sont eux-mêmes des gens qui vivent dans des familles où il n'y a pas de l'inceste. Et ils sont eux-mêmes élevés, comme tout le monde, en fait, comme les psychiatres qui expertisent, comme, dans un ordre social où il faut se taire sur la pratique de l'inceste. Ce qui explique aussi des situations ubuesques dans les procès, où on invite à témoigner la victime, qui est donc témoin dans un procès aux assises, mais pas ses frères et sœurs, des fois, ou pas les autres enfants ou les beaux-enfants d'un beau-père qui est violeur, par exemple. Et donc, sauf pour le sens commun, qui est bizarre. Donc, en ne les interrogeant pas, en ne leur demandant pas de venir témoigner, on leur pose pas la question de savoir si eux aussi ils ont été violés ou s'il y a d'autres incestes dans la famille. Et donc là, j'en parlerai pas là, mais si vous posez des questions, on peut en reparler. Mais le système, on n'en parle pas. Si. Le système judiciaire, lui aussi, il participe de ce système qui contribue à, s'il y a une parole, une révélation sur l'inceste, à couper en fait, pour pas que ça éclabousse, à couper l'effet de la révélation, en fait, et à permettre aux autres membres de la famille ou groupes de la famille de protéger le système silence. Et ça, c'est intéressant aussi, mais... Enfin, moi, je trouve, mais... Et voilà, et sur ces bonnes paroles, je vous remercie de votre attention, et je sais pas comment finir, mais je serais ravie, si vous avez des questions, d'y répondre.